France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Poursuivre un cachalot mythique, le poursuivre toute sa vie ou presque, Achab, le héros le plus célèbre de l'univers romanesque d'Herman Melville, cet homme qui court après Moby Dick, interprétation délirante du mal. Herman Melville, grand interrogateur de l'univers, alors comment agissent ces personnages devant les mystères et les scandales, avant d'écrire des vers, des textes en prose, avant d'être un romancier? Melville avait vécu tant et tant d'aventures maritimes. Le mardi des auteurs, Herman Melville, 1819-1891, par Simone Doueck, réalisation Céline Terce, première diffusion sur France Culture le 4 février 2010.
Though the clerk of the weather insist, and lay down the weather law, Pintado and Gannet they wist, that the winds blow whither they list in tempest or flaw. Old are the creeds, but stale the schools, revamped as the mode may veer. But Orm from the schools to the beaches strays, and, finding a conch whore with time, he delays, and reverent lifts it to his ear.
Il y a une écriture qui est suscitée par le voyage, voyage mélancolique. Hein, Melville part, on ne sait trop pourquoi, mais probablement pris d'une crise de mélancolie. Ses arrêts dans les différents lieux du grand tour traditionnel sont souvent marqués par un caractère sombre, mais il écrit. Et le retour est chargé d'ambivalence chez Melville. Le voyage est voyage d'inspiration poétique et le retour est marqué de l'angoisse, de la perte du désir et de l'arrêt de l'écriture.
Le préposé au temps a beau insister pour dicter sa loi au temps qu'il fait, le damier du cap et le fou de Bassan savent bien que les vents soufflent où il leur plaît, en bourrasque ou en ouragan. Antiques les croyances, mais rancies les écoles, ravaudées au gré des modes qui vont et virent. Orme, lui, les écoles délaisse pour les plages, trouve là une conque blanchie par les ans, s'attarde et déférant à l'oreille la porte.
À peu près au milieu de sa vie, Herman Melville est assis près de sa cheminée. « Dans l'ombre confortable de ma cheminée », écrit-il. Dans son vieux fauteuil, aux pieds en griffes, et il fume sa pipe de terre. Lui et sa cheminée fument ensemble. D'ailleurs, à le croire, lui et sa cheminée ne font qu'un. Voici ce Melville immobile. Il médite sur l'épuisement final de la vie, même la plus fougueuse. Et nous entrons dans tous les voyages. Ceux de ses poèmes et ceux de ses récits dans lesquels il nous prend. Il nous prend par sa langue hautement poétique, par sa langue qui invente et voyage dans le sens des mots, qui étincelle de formules nouvelles et rugueuses à lui, pour nous faire rêver. Par exemple, au mystère d'un manuscrit disparu, celui de Moby Dick, pour lequel chercheurs et amoureux donneraient de l'or, dans l'idée folle qu'il pourrait réapparaître un jour. Melville est impatient d'écrire ce que l'urgence au fond de lui intime. Son style est caméléonesque et mimétique. La formule est de Jean-Jacques Maillot. Et Deleuze dit que l'expression creuse dans la langue une sorte de langue étrangère. Ô lecteur, écoute. J'ai voyagé sans carte, tels ces voyageurs qui gonflent leurs voiles de leur propre souffle, creusant une route aveugle qui peut-être ne les mènera nulle part. Ainsi de moi. Melville parle des horizons nouveaux et des mondes à découvrir. Mais pour lui, le plus étrange des nouveaux mondes est celui de l'esprit, qui offre, écrit-il, plus de merveilles que les jardins d'or des Aztèques. Et maintenant, qui est celui-là que nous allons découvrir, étendu sans vie devant cet océan? Ne regarde-t-il pas, depuis sa mort, Melville lui-même, calé dans le fauteuil de ses pensées dont le voyage est éternel, dans un temps qu'il préserve en partageant la paix dont il jouit avec sa cheminée?
Par un beau jour de Pâques qui suivit une période de temps rhumatismal, on découvrit Daniel Orme seul et mort sur une hauteur qui dominait l'échappée vers le large du grand port. Il faisait face au débouché sur l'océan. Les yeux étaient ouverts, contenant toujours dans la mort le regard du vivant fixé sur les eaux brumeuses et sur les voiles confusément visibles qui s'éloignaient ou s'approchaient ou qui étaient ancrées plus près du rivage. Présumons qu'il s'endormit en se rappelant à travers la brume de la mémoire maintes scènes lointaines de la beauté du vaste monde, suggérées rêveusement par les eaux brumeuses qui s'étendaient devant lui. Ce qui me semble particulièrement émouvant, après avoir évoqué dans cette épopée grandiose qui est Moby Dick,
Philippe Jaworski,
un personnage aussi flamboyant que Akab, eh bien, il est décidé de consacrer un certain nombre d'années de travail à faire exister dans ses vers, ou dans ce texte en prose d'ailleurs, dont je viens de lire quelques lignes, des marins obscurs. C'est un des thèmes les plus fascinants et les plus bouleversants, disons, de toute la période de sa création, qui commence en réalité avec les contes, les années 1853-56, que cette façon de prendre aux obscurs, aux humbles, aux inconnus, une dignité par la biographie, en les faisant héros d'une biographie, là où évidemment la grande littérature ou bien l'histoire officielle, s'agissant des personnages historiques, ne va commémorer que les personnages les plus illustres.
Le recueil de John Marr est introduit par un texte en prose, très très beau texte, qui a été traduit par Pierre Léris, et qui raconte donc en prose, comme une petite nouvelle, la vie de ce personnage de John Marr, personnage qui est de fiction, mais qui ressemble à Melville, qui est un ancien marin.
Agnès de Rails.
Qui a dû renoncer à la carrière maritime à la suite d'une blessure. Et ça se passe dans les années 1830. Et il va s'employer dans une colonie, sur la frontière, à l'intérieur des terres. Donc c'est une sorte d'exil continental de ce marin qui est nostalgique de sa vie en mer, qui a perdu sa femme et ses enfants. Et cette situation fait écho, en fait, à la situation littéraire de Melville, qui est exilé, en fait, à l'intérieur de la scène sociale littéraire new-yorkaise. Et le seul palliatif qu'il trouve à sa mélancolie, en fait, c'est l'imagination et le souvenir, faire ressurgir ces figures du passé, les compagnons d'antan, les matelots, les mousses, les capitaines qui ont disparu et qui étaient donc ce temps de la communauté virile, du compagnonnage masculin et de la jovialité. Donc les poèmes, en fait, arrivent comme une forme de retour de la vie en mer, mais comme une sorte de remembrement, ou de remembrance, enfin, dans les deux sens, de remembering, mais de remembrer ce passé perdu, qui ne revient que dans le geste poétique.
Alors c'est cette mer aussi que nous regardons ensemble, Philippe Jaworski, c'est cette mer qui est un peu le début de sa vie, enfin, le début d'une vie d'aventure, d'une vie de voyage, qui ensuite va se retranscrire alors dans ses œuvres.
Est-ce que c'est un écrivain de la mer? Est-ce un romancier de la mer? C'est une question à poser. Je n'en suis pas absolument convaincu. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que, disons, les descriptions de l'océan n'occupent finalement pas tant de place que ça. Je serais presque tenté de dire que le monde du navire l'intéresse sûrement autant que l'océan proprement dit. Et puis, il y a Bien sûr, ce qu'il va trouver dans les mers du Sud, c'est-à-dire l'antithèse absolue de ce qu'était sa vie précédemment. Les îles de Polynésie, c'est d'une certaine façon pour lui, pendant un certain temps, une image presque parfaite du paradis. Ce garçon qui a reçu une éducation assez stricte, entièrement dominé par la religion, la lecture de la Bible, découvre dans les îles du mer du Sud. Laissons de côté pour l'instant les ravages de la civilisation occidentale, sous couvert d'évangélisation.
Qu'il a dénoncé d'ailleurs.
Qu'il a dénoncé, absolument. Et découvre des modes de vie complètement différents. Une grande liberté dans les rapports entre les gens. Un monde qui n'est pas soumis à la loi de l'argent. Il en restera marqué à jamais.
Far ashore. Look, the raft, a signal flying. Thin, a shred. None upon the lashed spar is lying, quick or dead. Cries the seafowl, hovering over. Crew, the crew, and the billow, reckless rover, sweeps anew.
Grand large. Là, le radeau signale au vent, ténu, un lambeau. Sur les espars attachés, personne, ni mort, ni vif. Gémit l'oiseau de mer, planant dans les hauteurs. Qui vit ? Et la houle, impavide, vagabonde, roule de plus belle.
Il est peut-être moins romancier qu'écrivain. C'est peut-être quelque chose qui nous fascine en lui aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui parle particulièrement à notre modernité. Je veux dire par là que il est, à coup sûr, et ce n'est pas du tout pour le diminuer, bien au contraire, je ne vais pas dire des choses méchantes sur un auteur qui m'accompagne, que j'accompagne, je ne sais plus dans quel sens ça se passe, mais depuis si longtemps. Ce n'est pas un romancier au sens où Conrad et Faulkner sont des romanciers. Ce qui l'intéresse, je pense, ce n'est pas tellement de construire une intrigue, de faire vivre des personnages, de les installer dans un décor. Il n'a pas les préoccupations du romancier réaliste. Ce qui l'intéresse, c'est autre chose. C'est ce qui se passe au-delà. Et d'une certaine façon, c'est d'essayer de dire l'histoire, de raconter une histoire intellectuelle ou une histoire spirituelle. Alors, écrivain, au sens où il a besoin d'un support qui est un support de fiction, qui est un support romanesque, mais pour dire un certain nombre de choses sur l'homme, et surtout, peut-être plus encore que dire, pour essayer de mettre en intrigue un questionnement et des interrogations.
Call me Ishmael. Some years ago, never mind how long precisely, having little or no money in my purse and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part of the world. It is a way I have of driving off the spleen and regulating the circulation.
Call me Ismaël, c'est-à-dire appelez-moi Ismaël, je traduis littéralement, bon, on peut gloser aussi sur la traduction. Trois mots. Comme incipit d'un roman, Antoine Graziani. Et de ces trois mots va sortir un récit.
Oui, c'est le début le plus, je crois, le plus stupéfiant des romans. Mais que ce début soit stupéfiant, c'est justement la sensation d'abîme qu'il ne peut pas ne pas donner au lecteur. Si on a lu le roman, on sait que c'est un retour de la mort, puisque Ismaël, le narrateur, revient des abîmes, littéralement, et il revient à cheval, en quelque sorte, sur un cercueil. Et ce cercueil est un pneuma, c'est une réserve d'air qui remonte de l'abîme, comme le souffle de la baleine est le grand mystère exprimé. Mais raconter quelque chose, c'est partager l'inintelligible. Quand le narrateur dit « Appelons-moi Ismaël », il passe un pacte, c'est une convention aussi faite avec le lecteur, supposons, puisque souvent on a interprété cette phrase comme ça, supposons que je m'appelle Ismaël. Cela veut dire aussi, si vous voulez un nom pour nommer la voix qui va vous parler, voici un nom qui peut peut-être être efficace ou convenir. Mais il n'est pas sûr que ce soit le cas, parce qu'avec ce que j'ai vécu, je n'ai plus de nom. C'est-à-dire, je suis allé dans l'équation au bout de l'inconnu. De cet inconnu, on en revient, alors on peut raconter ou on n'en revient pas. Ou alors c'est à l'intérieur du cercueil de Quiquette qui, là, a fait office de bouée de sauvetage.
Et qui remontait du fond de la mer, voilà. Du fond du tourbillon.
Qui remontait du désabîme, de l'abîme, c'est-à-dire du lieu même du récit. Ce qui est stupéfiant dans cette attaque du roman, c'est aussi, précisément, cette présence vivante. « Call me Ismaël »,« Appelons-moi Ismaël », c'est la présence de la voix. Et c'est une voix qui exige un retour, un dialogue. « Call », le premier mot, c'est un verbe qui commande, qui c'est une injonction. Et puis le second, c'est désigne celui qui parle, celui qui va raconter. Et le troisième mot, c'est l'abîme, c'est le nom. Parce que le nom est la limite du langage. Le nom propre est précisément ce qui ne veut rien dire, ce qui ne peut s'adresser, comme disait Walter Benjamin, qu'à Dieu.
Le nom Ismaël.
Oui, le nom Ismaël a bien sûr une signification, puisqu'il veut dire « Dieu écoute ». Et puis, il y a le titre du roman, qui est un nom, Moby Dick. Et ce nom, il y a un sous-titre qui est « Moby Dick ou le cachalot, The Whale ». Donc, c'est là qu'est l'incertitude. C'est là qu'est l'abîme, précisément, parce que dans ce second titre, qui précise quelque chose, on entre dans l'imprécis. On entre dans le nuage blanc qu'est Moby Dick. Partout dans ce roman, la présence fantomatique, l'annonce même de la présence du cachalot, est atmosphérique. C'est une annonce atmosphérique, c'est une annonce harmonique de la nature avec le cachalot. Ce sont les nuages, ce sont les scintillations sur la mer, ce sont les comparaisons de la montagne, par exemple, avec le cachalot, le souffle. Plus tard, Malcolm Lowry fera une comparaison du souffle avec le souffle du volcan. Donc il y a là quelque chose qui vient du centre. Moby Dick est un centre mouvant et Akab essaye de le fixer sur ses cartes marines selon ses besoins spécifiques, c'est-à-dire les besoins spécifiques du cachalot, comment il se nourrit, comment il se déplace, sa vitesse, etc. Mais c'est un centre qu'on ne peut pas fixer et qui est le centre en miroir de Akab. Et vous savez qu'à la fin, justement, la prophétie qui est faite à Akab se réalise et Akab voit son lieutenant secret ficelé sur Moby Dick, pris dans la ligne du harpon. Et ce que montre Moby Dick, c'est donc en miroir l'homme à l'homme.
Il veut tout de suite écrire une épopée. Écrire une épopée, c'est-à-dire son objet, c'est le plus gros, le plus grand, le plus énorme animal de la création. C'est l'animal fabuleux, c'est l'animal monstrueux.
Le Léviathan.
Et donc, sur un sujet grandiose, il va faire un livre grandiose. Il explique qu'à un moment, on ne pourrait pas faire un traité entier sur une puce. En revanche, sur le Léviathan, on peut faire un grand livre. Et on passe très facilement de l'idée du sujet le plus énorme auquel on puisse penser à l'idée que pour pouvoir arriver à en dire quelque chose, il faut un savoir encyclopédique. C'est un animal encyclopédique. Il faudrait pouvoir tout savoir sur cet animal pour essayer de le comprendre. Donc, tout savoir, ça veut dire en connaître l'anatomie, l'histoire naturelle, en regarder les représentations, comment les anciens imaginaient, se le représentaient, l'ont vu, l'ont dessiné, l'ont chanté, savoir ce que les poètes également en ont dit, comment il a traversé les âges, les cultures, comment on l'a chassé. Cet aspect documentaire, il est là, et je crois qu'il passionnait Melville. Et il fait la même chose avec le navire baleinier et le monde de la vie quotidienne des marins à bord. La différence des attitudes des uns et des autres face au danger, face à la mort, les indifférents, les cyniques, les désespérés, les suicidaires, les mélancoliques, les solitaires. Il y a toute une population extraordinairement diverse qui est très précisément représentée là-dedans. Donc il essaye de mobiliser tout un savoir encyclopédique extraordinairement varié et de multiplier les points de vue, plaçant la chasse particulière d'Aqab au cœur de ce panorama, en fait pour l'agrandir encore plus.
Vous savez, la baleine est un livre. Quand on doit mesurer les baleines, il y a la baleine in folio, in quarto, in octavo, etc. Selon la dimension des baleines, on a affaire à plus ou moins grand volume, livre. Donc, il y a une sorte de syllogisme dans cette comparaison qui est sous-entendue, c'est-à-dire ce qui est comparable à la baleine, puisque la baleine est comparable au livre, sera toujours comparable au livre. Et on peut prendre tous les termes du syllogisme et leur donner des places différentes dans l'ordre. Mais il y a ce point qui est le plus mystérieux en dehors de la comparaison. Tout à l'heure, je vous disais que la présence de la baleine était aussi atmosphérique, qu'elle était en harmonie avec tout ce qui constitue le visible pour l'homme et qui est aussi ce qu'il ne peut pas pénétrer absolument. Aqab dit ce qui le rend absolument acharné dans la poursuite de Moby Dick, c'est cette impénétrabilité. Il ne peut pas entrer, il ne peut pas aller au centre de la baleine. Il ne peut pas donc comprendre l'assemblage, l'harmonie entre la baleine et le monde.
Et on voit le cachalot se métamorphoser, se transformer d'objet naturel, c'est un mammifère, c'est un cétacé, etc. Il devient un objet poétique, et puis un objet ludique, un objet avec lequel on joue, tout simplement parce que on découvre que le savoir des scientifiques est un savoir qui n'arrive pas à tout expliquer. Par exemple, le souffle de la baleine. Est-ce de l'air? Est-ce de l'eau? Est-il dangereux pour l'homme? Est-il empoisonné? Qu'est-ce que c'est exactement que ce souffle? On ne le sait pas très bien. Et puis alors, il s'en tire avec évidemment toutes sortes de pirouettes qui sont là pour suggérer au fond qu'on a affaire à un prodige qui est absolument inconnaissable. Un mystère de la nature qui est peut-être une création de Dieu, dont le sens n'est pas clair. C'est l'animal le plus extraordinaire, c'est l'animal le plus mystérieux, et d'une certaine façon, il devient peu à peu une sorte de représentation de tout ce qui pousse les hommes à aller chercher quelque chose. Ce goût, ce désir d'un objet énigmatique, comme ça, qui nous hante. C'est ça qui l'intéresse toujours, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence.
In hollows of the liquid hills, where the long blue ridges run, the flattery of no echo thrills. For echo the seas have none, nor aught that gives man back man's strain, the hope of his heart, the dream in his brain.
On peut dire aussi que dans John Marr, il y a toute une réflexion sur l'indifférence de la nature, hein, sur le fait qu'il n'y a pas de commune mesure entre les destinées humaines, les œuvres aussi, donc, y compris les poèmes en train de s'écrire, et la nature qui est représentée là, surtout sous la figure, enfin même pas sous la figure, sous la réalité de la mer et des naufrages et des pertes.
Agnès de Rail.
Ou alors de figures comme le requin des Maldives ou encore l'iceberg contre lequel vient se briser un vaisseau fougueux et impétueux.
Comme
et
le qui, Pequod s'est comme brisé le Pequod, sur le Moby Dick.
Oui, et qui laisse bien sûr ce monde marin dans une indifférence totale. Donc c'est aussi une poésie qui est anti-romantique de ce point de vue, dans la mesure où il n'y a pas de transfert analogique des affects ou de la psyché humaine sur le monde naturel. Donc une sorte de coupure. Mais le poème en quelque sorte, s'adjointe à cette coupure. Il la reproduit, il la déplore d'un côté, mais ironiquement aussi, il en participe, il la continue, on pourrait dire.
Oui, parce que vous dites, je crois, Agnès de Rail, que la parole de la mer, cet univers, en tout cas maritime, intime le silence. Intime le silence à l'homme. Est-ce qu'il intime le silence au poème?
Mais je crois que tous ces textes sont quand même écrits en lisière du silence, hein, et... En effet, on continue de prendre la parole, mais pas pour très longtemps. Et le dernier des poèmes, précisément, hein, c'est même plus une prosopopée, la voix poétique prend la voix de la mer. Hein, le texte dit que les mers, justement, n'ont pas d'écho. Car d'écho, les mers n'ont point, rien qui ne renvoie à l'homme ses chants, les rêves de son esprit, de son cœur les penchant. Il n'y a pas d'écho sur cette mer, donc bien sûr, la parole y glisse ou y sombre. Mais avant qu'elle n'ait sombré complètement, il y a juste le temps de la levée, ça, du vocal du poème.
C'est quand même ça, je crois, l'essence de Melville. Melville est quelqu'un qui pose des questions, au fond, sur l'homme, sur le sens des choses, et qui essaye de comprendre, du point de vue de l'observateur, un peu détaché.
Philippe Jaworski.
Un tout petit peu impliqué, quand même, dans ce qui se passe, et qui se garde de conclure trop tôt.
Ça veut dire qu'on est toujours un peu dans l'inachevé.
On est dans l'inachevé, on est dans le doute jusqu'au dernier moment. On termine Barthelby, par exemple, sans savoir exactement ce qu'était ce personnage, ce mystérieux personnage de copiste. Il pose des questions, il ne donne jamais de réponse. Il ne donne jamais de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse. Une scène que j'ai toujours trouvée très emblématique chez lui est une petite scène dans le fameux Barthelby. Le dimanche matin, l'avoué se rend chez lui, il trouve Barthelby dans son cabinet, il trouve Barthelby chez lui, qui lui demande d'aller faire un tour, et puis quand il revient, Barthelby a disparu, et il découvre que son copiste a installé son toit chez lui, enfin il y dort, il y mange, il y est tout le temps. Ils se sont autorisés à regarder dans ses affaires, il se dirige vers le pupitre du copiste, et puis il l'ouvre, et il y a un petit tiroir, il se dit après tout, ce pupitre est à moi, ce copiste est mon employé, j'ai quand même le droit de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et Melville le décrit de telle sorte que on se dit, il est à la recherche du secret, et là il va trouver dans le tiroir ce qui va lui permettre d'expliquer ce qu'est ce personnage, pourquoi il reste chez lui, etc. Il ouvre le tiroir, il n'y a rien dedans, bien sûr. Il y a juste un mouchoir avec quelques petites pièces, les maigres économies du copiste. Donc, vous voyez, le mystère de Barthelby, c'est un mystère sans secret. On pourrait le dire de toute l'œuvre. C'est-à-dire que Melville a le sens du mystère, et pour lui, la vie est d'abord ce mystère-là. Mais c'est un mystère sans secret. C'est-à-dire qu'il est vain d'essayer de chercher une signification précise ou des significations précises. On a des clés qui ouvrent des portes, mais les portes, c'est comme chez Kafka, elles ouvrent sur d'autres portes. Et il n'y a jamais personne derrière pour vous dire, ben voilà, enfin, vous êtes arrivé dans le lieu ultime où tout s'est clair. Non, il n'y a jamais de révélation finale et d'explication finale et globale du sens des choses. Jamais.
Et que diriez-vous, Antoine Graziani, du « I would prefer not to » de Barthelby?
Je dirais la même chose. Je préférerais ne pas en dire quelque chose, par exemple. C'est un refus, on l'interprète comme un refus. C'est en miroir de ce refus une présence aussi que là aussi un narrateur, n'est-ce pas? Vous voyez, là, on retrouve la même hiérarchie. Barthelby est un homme original, un homme singulier, et puis il y a quelqu'un qui essaye de l'apprivoiser, qui essaye de comprendre. Ça aussi, c'est un peu quelque chose qui vient d'Edgar Poe. Mais c'est un refus qui, à mon avis, à mon expérience, est le refus de l'identification à la conscience. Et c'est le propre de celui qui écrit, et qui écrit particulièrement de la poésie, que de séparer la conscience de tout ce qui pourrait être repérable en tant qu'identification. Celui qui raconte, celui qui écrit, est tout aussi mystérieux que le centre de la baleine, tout aussi inapprochable, tout aussi inaccessible et inintelligible.
Et ce sont des aventures exclusivement intérieures. Mais je crois qu'il ne faut pas considérer avec trop de dédain ce pauvre avoué, fasciné, et qui ne sait pas comment se débarrasser de ce copiste-là.
C'est quand même le narrateur, hein ?
C'est le narrateur, on le trouve médiocre, mais Melville le fait moyen, ordinaire, pour que le lecteur puisse mieux s'y reconnaître. Il est, d'une certaine façon, une image du lecteur dans le texte. C'est avoué qui est passionné, qui est déchiré entre des sentiments contradictoires, qui éprouve tour à tour de la pitié, qui veut sauver son copiste, et puis qui un peu plus tard veut le tuer, qui veut le garder, qui veut s'en débarrasser, qui va même jusqu'à lui proposer de l'héberger chez lui. Cet avoué qui hésite, qui se contredit, qui tergiverse, qui est complètement aux abois, c'est l'homme moyen ordinaire, c'est un peu nous, en face de ce scandale que représente Bartleby, c'est-à-dire un être absolument abandonné et pour lequel on ne sait plus quoi faire. Et la question est de savoir jusqu'à quel point nous pouvons accepter un mystère en tant que tel et vivre avec.
Étrangement recroquevillé au pied du mur, couché sur le flanc, les genoux repliés, la tête touchant les pierres froides, je vis Bartleby décharné. Mais rien ne bougeait. Je m'arrêtai, puis m'approchai de lui, me penchai, et vis que ses yeux voilés étaient ouverts. À ce détail près, il semblait profondément endormi. Quelque chose m'incita à le toucher, je tâtai sa main. Un frisson brûlant courut le long de mon bras et de mon échine jusqu'à mes pieds. La face ronde du cuistot me dévisageait. Son déjeuner est prêt. Il va encore se passer de déjeuner aujourd'hui ? Il vit donc sans déjeuner ? Il vit sans déjeuner, répondis-je, et je lui fermai les yeux. Oh, il dort, n'est-ce pas ? Avec les rois et les grands de la terre, murmurai-je.
Melville est peut-être de tous les écrivains du XIXe siècle celui sur lequel on sait le moins de choses. Ça peut paraître curieux, on en sait beaucoup plus sur la vie d'Edgar Poe, sur la vie de Whitman, pour rendre des personnages qui sont plus ou moins des contemporains, ou sur la vie de Hawthorne que sur la vie de Melville. Il y a des pans entiers de sa vie qu'on ne connaît pas bien. Il y a des épisodes très importants qui nous sont complètement lacunaires. Sur ces années de mer, par exemple, on sait à peu près rien. Dans toute la période qui suit la guerre, la fin de la guerre civile et pratiquement jusqu'à sa mort, il y a des trous qui sont considérables. Nous avons très peu de lettres, pas beaucoup de témoignages familiaux. On pourrait dire de lui ce que dit l'avoué de Bartleby. On ne peut pas faire de biographie satisfaisante parce qu'on n'a pas assez de documents.
A mute goes aboard a boat on the Mississippi. At sunrise on the 1st of April, there appeared suddenly, as Manco Capac at the Lake Titicaca, a man in cream colors, at the waterside in the city of St. Louis.
À 1er avril, au lever du soleil, parut sur le quai de la ville de Saint-Louis, aussi soudainement que Manco Capac au bord du lac Titicaca, un homme tout de clair vêtu. Sa joue était pâle, son menton couvert d'un duvet, ses cheveux d'un blond filasse, et il portait un chapeau de fourrure blanche à longs poils laineux. Il n'avait avec lui ni malle, ni valise, aucun sac de voyage, ni paquet. Nul porteur ne le suivait, nul ami ne l'accompagnait. Les haussements d'épaules, les ricanements, les murmures, les étonnements de la foule, tout disait, sans doute possible, que cet homme était un étranger, d'une étrangeté absolue.
Jean-Michel Rey, Melville écrit The Confidence Man, je dis ce titre en anglais de manière intentionnelle parce que finalement, je crois que c'est un titre qui est un faux ami. Confidence, c'est confiance normalement. Mais en fait, ça veut dire l'escroc à la confiance.
Oui, alors le titre est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, il y a ce terme de confiance qui entre dedans. Et le terme dit presque le contraire de ce qu'il semble vouloir dire. Mais l'intérêt précisément de ce titre, évidemment du roman qu'il couvre, c'est précisément que c'est exactement ça qui est à l'œuvre dans le roman. C'est-à-dire, tout ce qui semble relever de la confiance apparaît comme quelque chose, au fond, qui procède d'opérations tout à fait étrangères à la confiance même. C'est un des intérêts de ce roman que de se constituer véritablement dans un rapport au langage extrêmement minutieux. Au fond, ça tourne autour de quelques mots, confidence, trust, et des mots équivalents à ça. Et chaque scène du roman est peut-être une manière de faire glisser le sens de confiance, de trust, de crédit, etc.
Vous pouvez donner des exemples, là, développer ceci ?
Oui, une scène dans laquelle l'escroc voit une dame qui lit les évangiles, et l'escroc arrive, parle à cette dame, et au fond, arrive à lui soutirer de l'argent en lui montrant qu'elle doit être fidèle, en quelque sorte, à ce qu'elle est en train de lire. Enfin. Et là, il y a une saisie très forte d'un mécanisme élémentaire du crédit, au fond, hein, et de tout ce que recouvre ce terme. C'est-à-dire, au fond, à la fois, on demande quelque chose à quelqu'un, et dans cette demande, on lui offre une garantie. Une garantie qui est évidemment toujours imaginaire, une garantie de parole en quelque sorte. Et c'est là peut-être où le roman a une puissance extraordinaire, c'est-à-dire de montrer que les grands mécanismes de l'économie, et je crois qu'on n'en est pas vraiment sorti, fonctionnent véritablement avec des énoncés.
Alors, faisons un déplacement aussi, depuis l'argent jusqu'au roman. Chapitre 14, dans l'escroc à la confiance, donc j'utilise la traduction qu'a utilisée Philippe Jaworski, le narrateur intervient et revendique le droit, justement, d'aller jusqu'au bout de l'irrationalité dans ses personnages. Certains ont pu se trouver surpris qu'un homme comme le marchand, qui s'était montré si plein de confiance jusqu'à l'instant où sa spontanéité avait eu ce brusque élan, et révéler alors un malaise aussi profond. On peut penser qu'il est inconséquent, et en fait il l'est. Mais de cela, l'auteur doit-il être blâmé ? On peut prétendre, il est vrai, qu'il n'est rien à quoi un auteur de roman doive plus soigneusement veiller, de même qu'il n'est rien à quoi un lecteur raisonnable soit plus attentif que l'unité du caractère dans la description des personnages. Mais ceci, bien qu'à première vue assez raisonnable, semble-t-il, risque de ne pas l'être tellement si l'on y regarde de plus près. Donc ça aussi, ça nous pose une autre question, celle de
la confiance. Oui, c'est le façonnement du roman, c'est la fabrique du roman. C'est-à-dire que le roman, c'est une construction verbale, en quelque sorte, c'est une construction de paroles qui appelle de la part des lecteurs eh bien, une confiance qui est équivalente, ou analogue en tout cas, à celle que réclame l'économie. Autrement dit, la pertinence de la démarche de Melville, c'est précisément de montrer à l'intérieur du roman, et non pas dans une préface, et non pas après coup en quelque sorte, mais de montrer à l'intérieur même du roman que ce qu'il décrit comme ces petits actes d'escroquerie qui sont réalisés grâce à des phrases, eh bien le romancier fait quelque chose qui est strictement analogue.
Ce qu'il a en tête, je crois, ce sont des vérités sur l'homme, sur l'âme humaine, sur la noirceur de l'âme humaine, sur les profondeurs de l'âme humaine. Ce qui est implicite, c'est que, en particulier dans ce jeune pays qui est les États-Unis du milieu du 19e siècle, les gens sont préoccupés d'autre chose que d'entendre des vérités fondamentales sur l'homme. En conséquence, l'écrivain ne peut les suggérer que de manière oblique et de manière fugitive, par bribes et par éclairs.
Agnès de Reit, vous parlez aussi d'une sorte d'acquiescement à l'inhumain qu'aucune langue ne peut dire. Et ça, c'est aussi, je pense, une espèce de base continue quoi, chez Melville, pas seulement dans ses poèmes.
Oui, ça, cette notion, je crois, d'acquiescement me semble importante. J'essaie de dire qu'il y a une sorte de double postulation mémorielle dans ces poèmes, qui sont à la fois de faire revivre le passé, de le garder, donc de l'enserrer dans le maillage du vers, hein, et le poème donc serait une sorte de reliquaire ou de cénotaphe, mais il y a aussi un abandon d'ailleurs pas forcément endeuillé à la perte. Et le texte, d'une certaine façon, dit oui à l'inhumain et le laisse entendre, y compris dans ses maladresses sonores ou son exubérance un peu baroque. Hein, et le dernier vers de ce texte qui s'appelle Galet, qui est en fait une suite de 7 épigrammes, et qui est, donc les galets sont les poèmes, mais ce sont les poèmes tels que la mer les a façonnés, hein, tels que la mer les a changés. Et là, il y a un vers de Shakespeare, de la tempête, qui hante tout le recueil, hein, qui est ce chant d'Ariel dans la tempête où tout se transforme dans la mer, hein, les yeux deviennent des perles et les os des coraux. Et ça, Shakespeare l'appelle sea change, hein, le chant de la mue marine, on pourrait le traduire comme ça. Et le poème devenu galet accepte sa mue marine, sa transformation par la mer. Donc la dernière épigramme dit « Guéri de ma blessure, j'adresse ma louange à la mer inhumaine. En vérité, bénis soient les 4 anges qui en ce lieu s'assemblent, car guéri je suis jusque par leur impitoyable haleine, distillée en rosée salutaire que l'on nomme rose marine. »
Healed of my hurt, I laud the inhuman sea. Yea, bless the angels four that there convene, for healed I am, even by their pitiless breath. Distilled in wholesome dew, named rosemarine.
On l'aura compris, Philippe Jaworski, il y a toujours chez Melville cet attrait de l'insondable, de l'inexplicable, de l'inachevé et de l'inaccessible. Et vous dites aussi que, par exemple, Moby Dick, et puis un autre roman, un autre gros roman bien consistant de Melville qui s'appelle Pierre et les ambiguïtés, que ces deux romans-là, quoiqu'ils ne se passent absolument pas dans le même contexte, sont un petit peu le miroir l'un de l'autre ou l'envers l'un de l'autre ou l'extrémité, chacun étant l'extrémité d'une même idée peut-être.
Oui, ce sont deux héros, le capitaine Ahab d'un côté et puis Pierre, le héros de Pierre et les ambiguïtés. On a affaire à deux personnages qui sont ce que j'appelle des idéalistes dévoyés, c'est-à-dire que ce sont deux individus qui ont construit à un certain moment un projet, qu'on pourrait dire existentiel, sur une croyance intime, qui est devenue pour eux une vérité. Chez Ahab, c'est que ce cachalot qu'il poursuit est une incarnation du mal, n'est-ce pas ? Il y a une interprétation délirante du cachalot qu'il a mutilé. C'est une incarnation du mal dans l'univers, c'est la présence scandaleuse du mal dans l'univers. Pourquoi s'est-il attaqué à moi? Pourquoi m'a-t-il mutilé? Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il veut percer tous ces mystères-là. Pierre, d'un autre côté, se construit sa vérité à partir de la lettre qu'il reçoit d'une jeune femme inconnue qui prétend être sa demi-sœur. Il est immédiatement persuadé de la vérité de ce qui est dit. Et
il
s'aperçoit d'un seul coup que, au fond, tout l'édifice familial a été bâti sur un mensonge, c'est-à-dire sur le mensonge de la parfaite intégrité du père. Et d'un seul coup, c'est tout l'édifice moral de Pierre qui s'effondre. Donc, il se coupe de tout, et peu à peu, le doute va s'insinuer en lui. Et si je m'étais trompé? Et si Isabelle n'était pas de ma demi-sœur? Finalement, quelles sont les preuves dont je dispose? Voilà, c'est l'histoire de deux personnages qui, à la suite d'une rencontre bouleversante, se construisent une croyance qui devient pour eux une vérité absolue, aménagent ensuite leur vie et leur comportement en fonction de cette vérité qui devient leur point de repère fondamental et que Melville suit dans leur périple qui les amène à, d'une part, se couper du monde, parce que ce sont deux personnages très solitaires, finalement, et à l'interpréter, le comprendre, à travers cette perspective qui est celle d'une croyance unique, d'une idée fixe. Ce sont des monomaniaques. Pierre aussi est un monomaniaque. C'est l'un des grands thèmes de Melville, c'est l'idée fixe. Et l'idée fixe, elle mène toujours à la tragédie. Et ces êtres-là vont tout droit à la catastrophe. Vivre, finalement, c'est avoir la capacité de devenir toujours autre chose.
All dripping in Tangle's dream, cast up by a lonely sea, if purer for that, O weed, bitterer too are ye?
Bruisselant en entrelacs virides, rejet d'une mer solitaire, d'en être plus pur, ô algue, n'en es-tu aussi plus amer? Donc là, c'est une adresse à l'algue, finalement, très brève, qui refait rejouer cet imaginaire maritime, mais qui, cette fois, n'est pas l'imaginaire sublime, mais le regard se pose sur l'algue et s'adresse à l'algue, dont nous n'avons pas la réponse, bien sûr.
Et ça rappelle la ballade de Billy Budd.
Oui,
le dernier vers.
Le dernier texte, oui, bien sûr.
De la ballade de Billy Budd qui dit: Et roule-moi bien sur le côté car j'ai sommeil et je sens les algues gluantes m'enlacer.
Oui, 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 là, c'est un magnifique texte de Billy in the Darbies, hein, Billy au fer. On n'a pas dit tout à l'heure d'ailleurs que la dernière prose de Melville, c'est quand même Billy Budd. Hein, c'est un court roman mais qui est publié de façon posthume. Hein. Mais Billy Budd lui-même, en tant que prose, est issu sans doute du poème que vous venez de citer. Et dans ces weeds, là, puisque l'algue, en fait, en anglais, ici, là, dans le poème que Cécile a lu et dans la ballade de Billy, le mot anglais, c'est weed, hein, qui est un mot intéressant parce qu'il veut dire aussi vêtement de deuil. Donc c'est aussi le tissage du vêtement de deuil, du linceul aussi, du hamac dans lequel Billy se trouve avant d'être jeté à la mer et où il se rêve justement enlacé par se mêlant aux algues, justement. C'est une sorte de devenir liquide et de devenir herbe. Alors là, dans le texte que Cécile vient de lire, bien sûr, il y a une interrogation métaphysique très forte, mais le poème lui-même, dans ses quatre brins, hein, quatre vers, imite aussi hein, l'entrelacs viride qu'il est en train d'interpeller pour avoir une réponse sur ce que la mer vomit, mais surtout sur ce qu'elle ne rend pas, hein, puisque bien sûr l'apparition de la touffe de varech. Varech vient de, et la même étymologie que wreck en anglais, qui veut dire épave. Hein, c'est assez amusant, mais c'est un hasard heureux. Et bien sûr, le varech, en fait, c'est la manifestation de ce qu'on n'aura plus jamais, qui est l'épave au fond de l'eau. Mais le texte se pense lui-même comme brin d'herbe, je dirais brin d'algue. Hein.
Oui, on reste en plus sur une interrogation et ce oh weed, enfin, ce. Sans en ces quatre vers en anglais, on ne voit presque que ce « o » qui est aussi bouche ouverte, interrogation, vide. L'inscription du monde, alors, l'inscription de l'orbe.
Comme après avoir parcouru en tous sens quelques vallons ombreux, le chasseur déçu s'élance à travers une prairie sans fin, puis, perdant espoir, regagne le large des plaines. Ainsi, après avoir longtemps cherché, nous fîmes demi-tour et sortîmes de cette mer intérieure. L'univers de nouveau s'ouvrait devant nous. C'était le champ de notre quête. Melville met des personnages devant ses mystères et ses scandales pour regarder comment tout ça se passe. Jusqu'à Billy Budd, les choses se passent de cette manière-là. Le capitaine Vere, qui réunit dans sa cabine le marin accusé,
Billy Budd,
qui est innocent, le beau marin, qui est innocent, l'ange. Et puis le capitaine d'armes, ce personnage diabolique qui accuse Billy Budd. Il les convoque dans sa cabine et il assiste au spectacle le plus étrange qu'un homme puisse jamais voir, c'est-à-dire visiblement la mise en œuvre des forces les plus primitives qui se puissent imaginer.
Et des forces hors du langage.
Hors du langage.
Que ce beau marin.
Alors ce beau marin est un ange, mais c'est un ange meurtrier. C'est un ange dont le poing est capable de tuer d'un coup. Et par ailleurs, il y a le capitaine d'armes qui révèle d'un seul coup sa nature très profonde de bête sans nom, venu d'on ne sait trop où. En tout cas d'avant la création. Une espèce d'énergie primitive, de haine pure, d'instinct de destruction. Voilà. Il y a la force de la destruction, et puis il y a l'ange qui détruit. Alors, le spectacle est absolument, qui est très bref, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Voilà le mystère. Que deux êtres humains, deux individus, qui travaillaient, qui vivaient à bord d'un navire, dans une certaine circonstance, puissent d'un seul coup révéler qu'il y a en l'homme une survivance de quelque chose qui est proprement surnaturel, qui était là, endormi, et qui, à l'occasion d'un conflit, s'éveille et se met en œuvre d'un seul coup, très très brutalement. En l'occurrence ici, il s'agit de deux sortes d'énergie ou de principes primitifs qui remontent des profondeurs du temps pour venir se manifester dans deux corps d'individus qui sont par ailleurs des êtres humains. Mais lui, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit « ce ne sont pas des allégories, ces deux personnages. Ce sont de vrais individus. » Alors, comprendre ce mystère-là, qui, dans le cas du capitaine d'armes, c'est le mystère du mal, ce que la Bible appelait le mystère d'Édiquité. Comprendre ce mystère-là, dit Melville, à l'époque où il écrit son texte, à la fin du XIXe siècle, il dit « plus beaucoup d'Américains ne peuvent le faire parce que les gens ne croient plus, les gens ne lisent plus la Bible. Il faudrait, seules les catégories bibliques nous permettent d'avoir une petite idée de ce que c'est. »
Billy Budd est une sorte de baleine parfaite dans sa nature physique. C'est un homme, un jeune homme, très jeune homme, qui semble incarner ce qui serait la pacification de l'homme, c'est-à-dire son physique et son esprit forment un équilibre parfait. Il y a là quelque chose qui ne peut pas tout d'un coup s'abîmer dans la passion, la colère, la violence, comme chez Achab, ou comme chez justement Claggart, son persécuteur. Bien qu'il ne faille pas identifier Achab et Claggart, bien entendu, il y a un équilibre. Cet équilibre serait dû à cette improbable et assez exceptionnelle perfection de la nature que représente Billy Budd. Billy Budd est un enfant trouvé, ce qui veut dire en quelque sorte qu'il n'a pas d'ascendant, il est directement le fils de la nature, et en tant que tel, il est parfait, c'est-à-dire il est une hypothèse de ce que pourrait être l'homme, et c'est ce que ne supporte absolument pas son persécuteur, qui veut, comme Achab veut pénétrer la baleine pour savoir le fin fond de l'harmonie, veut absolument tuer, se débarrasser, pénétrer de cette façon-là Billy Budd pour en connaître le mystère.
C'est la première fois que Melville met en place dans son œuvre l'affrontement entre la pureté absolue et l'instinct de destruction absolue de manière aussi intense et aussi brutale. Il y a dans son œuvre donc antérieure des beaux marins, des êtres purs. Il y a des marins diaboliques, des marins pervers, mais jamais à ce point-là, jamais avec cette intensité à la fois humaine et métaphysique, et alors jamais en particulier, il ne les avait mis face à face. Et face à face, pour un témoin qui est un capitaine, un être posé, rationnel, de bon sens, doué d'une grande intelligence et qui perçoit tout de suite de quoi il s'agit. Lui est voué au silence, il ne parlera pas. Vous parliez de langage, il ne dira rien de ce qui s'est passé. Le silence va tout de suite retomber sur cette affaire pour une raison simple, qui est qu'elle est totalement incompréhensible et inacceptable. C'est un scandale absolu de la création qu'à un certain moment, ces deux phénomènes, Melville les appelle des phénomènes, sont des êtres phénoménaux, Claggart et Billy Budd. Que ces deux êtres phénoménaux se croisent à un moment est quelque chose qui est absolument unique dans une vie.
But aren't it all sham? A blur's in my eyes. It's dreaming that I am.
Mais si tout était faux.
A hatchet to my hawser, all adrift to go. But me.
Un voile est sur mes yeux.
Drop me deep.
Ou un rêve plutôt.
Fathoms down, fathoms down. How I'll dream.
On tranche ma haussière.
I feel it stealing now.
Ah.
century.
Je dérive au loin.
Just ease the starbies at the wrist and roll.
Moi, c'est dans un hamac qu'on va m'envoyer par le fond, à des brasses et des brasses.
And the oozy weeds about me twist.
J'aurai un beau sommeil. Le voilà qui me prend. Je sens la torpeur me gagner et les algues gluantes mon corps enlacé.
Regardez la mer, Philippe Jaworski. Regardez la mer qui est maintenant montée. Elle est presque étale. Elle a quand même son mouvement. Elle est très bleue. Un bleu de Prusse, un petit peu comme ça. Si on tourne un peu la tête vers la gauche, on a le soleil qui va bientôt se coucher. Et donc quelques reflets plutôt rosés sur cette mer. Et alors, est-ce que vous imaginez Herman Melville sur cette mer ?
Bah écoutez, je repense à la toute première page de Moby Dick, où il nous montre les New-Yorkais attirés par la mer, par l'extrémité du quai, et qui regardent. Alors, est-ce qu'ils regardent la mer ? Ils regardent le fond de l'horizon. Ils regardent tout à fait au bout. Et est-ce que c'est la mer qui l'intéresse ? C'est la mer parce que elle emporte là-bas. Là-bas, on a l'impression qu'elle se termine, mais on sait bien qu'elle ne se termine pas. Et c'est ce mouvement-là qui ouvre à l'esprit la possibilité de quelque chose, qui ouvre le désir. C'est un petit peu ça que dit Ismaël. C'est l'envie d'aller là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Alors, voilà, c'est le mouvement de l'âme, je pense, pour Melville. L'âme, c'est ça. C'est ce qui, en nous, ne se contente pas de ce qui est immédiatement sous nos yeux, mais qui nous amène un tout petit peu plus loin, quoi.
Philippe Jaworski, traducteur et responsable de l'édition Pléiade de Herman Melville, dont le dernier tome vient de paraître chez Gallimard. Agnès de Rail et Cécile Roudeau, traductrices des derniers poèmes de Melville, édition Rue d'Ulm. Antoine Graziani, écrivain et poète. Jean-Michel Rey, philosophe, professeur de littérature à l'Université de Paris 8. Les textes sont lus par Éric Caravaca et David Wilhite. Remerciements à Marie-Hélène Desjardins, qui nous a accueillis au musée des Terre-Neuve de Fécamp, dont elle est la conservatrice en chef. Coordination, Pascal Dacibat. Prise de son, Julien Bourdet, François Rivalant, Rémi Fessard. Mixage, Alain Joubert. Une émission de Simone Douek, réalisée par Céline Terce.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 février 2010. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours ou la podcaster durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.